choc à la pompe, le prix du litre d'essence se rapproche de 2 $.
Je trouve ça vraiment aberrant, honnêtement.
Ça n'a pas de sens. On va prendre le basic.
Conséquence des guerres et des tensions internationales.
C'est la géopolitique, c'est le conflit mondial, que ce soit l'Ukraine, le Gaza ou l'Iran maintenant.
Accès à l'information, manque de transparence dans plusieurs ministères au Québec.
L'organisme qui veut bloquer l'accès à un document peut invoquer n'importe quoi, même des trucs les plus loufoques.
Et des Abénakis à l'ONU pour défendre leur identité.
Il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament être Abénakis, puis c'est un grand problème.
Bonjour, ici Mathieu Bellumeur, bienvenue au Radio-Journal. Mauvaise nouvelle pour bien des automobilistes, chauffeurs de taxi ou camionneurs. Le prix du litre d'essence a bondi de 20 cents la nuit dernière dans plusieurs régions, 14 cents dans la région de Toronto. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Alors, le prix du litre d'essence ordinaire atteint 1,90 $, même plus dans certaines stations-service ce matin.
Oui, effectivement. Je suis devant une station-service de Montréal, Mathieu, où le prix du litre d'essence était à tout près d'1,90 $ ce matin. Et c'est comme ça dans plusieurs régions du Québec. C'est la même chose en Ontario. Encore là, le prix à la pompe est à la hausse. En fait, tant au Québec, Mathieu, qu'en Ontario, on a vu une augmentation d'environ 14 cents le litre depuis hier. Ce serait d'ailleurs un sommet en près de 2 ans, ce qui suscite beaucoup de grogne chez certains, chez les automobilistes. On peut en écouter quelques-uns.
En tout cas, c'est décourageant pour nous, surtout nous, les jeunes actuellement, avec le salaire minimum qu'on gagne, et puis ça ne nous arrange pas, c'est un peu décourageant pour nous.
Je trouve ça vraiment aberrant, honnêtement, là, parce que moi, je me déplace tous les jours pour aller travailler, c'est pas le fun. Là.
Ça n'a pas de sens. Il m'a sorti moins. Il m'a allé, on fait juste pour les commissions.
Je peux juste dire que j'ai hâte d'avoir une auto électrique.
Bon, Jean-Philippe, maintenant, comment expliquer cette hausse soudaine?
Oui, c'est la grande question ce matin. Alors, selon les experts à qui j'ai parlé, ce qui contribue à cette augmentation, c'est en grande partie le passage à l'essence d'été. Mais selon Carole Montreuil de l'Association canadienne des carburants, c'est davantage, Mathieu, ce qui se passe dans le monde, notamment au Moyen-Orient.
Le facteur le plus important, c'est la géopolitique. Que ce soit l'Ukraine, le Gaza ou l'Iran maintenant, on le sait comment la géopolitique impacte le prix de la matière première, le prix du pétrole brut. Et depuis plusieurs semaines, on le voyait, cette tendance haussière-là.
Mais selon certains experts, eh bien, le prix du litre d'essence, là, Mathieu, devrait éventuellement baisser. Certains pensent même que ce sera au cours des prochains jours.
Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Merci, au revoir.
Justement, parlant de l'Iran et du conflit avec Israël, le pays a prévenu Israël qu'il est prêt à répliquer une éventuelle riposte israélienne sur son territoire. Les gardiens de la Révolution affirment avoir identifié les sites nucléaires de l'État hébreu et qu'ils n'hésiteront pas à les viser si leurs propres cibles sont attaquées. Et plus tôt ce matin, l'Union européenne a imposé de nouvelles sanctions à l'Iran en réponse à l'attaque de Téhéran contre Israël au cours de la fin de semaine. La Chambre des communes a été le théâtre d'une comparution extrêmement rare. L'un des entrepreneurs à l'origine du scandale de la coûteuse application ArriveCan a été convoqué par le Parlement, une première en plus de 100 ans pour un citoyen canadien. Christian Noël est à Ottawa. D'abord, racontez-nous ce qui s'est passé hier, c'était là, en après-midi.
Voilà, le partenaire de GC Strategies, Christian Firth, a été convoqué devant la Chambre pour être réprimandé par le président, questionné par les députés. C'est une mesure disciplinaire du Parlement qui n'avait pas été utilisée depuis 100 ans. Et il a été forcé de se présenter même s'il avait des problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'il a caché la vérité lors de 3 témoignages précédents en comité. Finalement, hier, M. Firth a été forcé de dévoiler le nom de ses contacts au gouvernement qu'il tentait de garder secret, aussi qu'il avait menti sur son CV pour obtenir des contrats plus payants. Mais il n'a pas toujours été un livre ouvert, même durant cette convocation historique. On écoute.
Est-ce que M. Firth peut nous confirmer qu'il a volontairement évité de nommer ses sources au sein du gouvernement libéral pour protéger son payant modèle d'affaires?
Mr. Speaker, no, I didn't.
Je suis convaincu que oui, j'étais là, j'ai entendu, je comprends pas pourquoi il dit qu'il n'a pas dit ça.
Et quand Elizabeth May lui a demandé simplement « Avez-vous honte? », d'abord, il a essayé de ne pas répondre pour ensuite dire qu'il ne regrettait rien.
Et Christian Firth n'était pas au bout de ses peines après cette comparution.
Non, pendant qu'il était admonesté pour ses faux fuyants dans le dossier d'ArriveCan, sa résidence était aussi victime d'une perquisition de la part de la GRC dans un autre dossier parce qu'il est soupçonné de corruption dans un contrat avec l'Agence de services frontaliers.
Christian Noël à Ottawa, merci.
Je vous en prie.
À Québec maintenant, les ministères prennent leur temps lorsqu'il s'agit de répondre à une demande d'accès à l'information. Une compilation effectuée par Radio-Canada indique qu'une fois sur quatre, les réponses parviennent aux citoyens au-delà des délais légaux. L'éducation et la sécurité publique récoltent la pire note. Précision, Thomas Gerbet.
Au Québec, tout citoyen a le droit de demander l'accès à un document d'un organisme public. C'est la loi depuis plus de 40 ans. Le ministère a l'obligation de lui répondre dans les 20 jours. Au pire, 30 jours. Mais au-delà, c'est illégal. Et le citoyen mécontent peut s'adresser à la commission d'accès à l'information, un tribunal administratif. Notre compilation, à partir des rapports de gestion des ministères de l'an dernier, démontre que 25% des réponses du gouvernement se font hors délai. Les pires bilans vont à l'éducation et à la sécurité publique, où les deux tiers des réponses étaient en retard. De son côté, le ministère des Relations internationales est celui qui a refusé le plus de demandes, le tiers complètement rejeté et la moitié partiellement avec le fameux caviardage. Le professeur en droit de l'information à l'Université de Montréal, Pierre Trudel.
L'organisme qui veut bloquer l'accès à un document peut invoquer n'importe quoi, même des trucs les plus loufoques. Et il n'y a pas de sanction véritable, sinon que l'organisme va être un jour obligé d'accorder l'accès. Et donc, combiné avec la lenteur proverbiale des tribunaux, y compris la commission d'accès, bien, ça fait en sorte que le droit est en pratique nié.
La commission d'accès à l'information et même l'association des fonctionnaires chargés de l'accès réclament une modernisation de la loi. Le ministre responsable Jean-François Roberge n'a jamais voulu s'engager à le faire. Il sera interrogé ce midi lors de l'étude des crédits à l'Assemblée nationale. Jusqu'en 2022, il avait la charge du ministère de l'Éducation, celui qui avait déjà le plus mauvais bilan. Ici Thomas Gerbert, Radio-Canada, Montréal.
En bref, maintenant au pays. Le gouvernement fédéral veut incarcérer des migrants dans ses pénitenciers. Cette information figure dans le budget déposé mardi et fait suite à la décision des provinces de ne plus enfermer dans leurs prisons des personnes en raison d'un dossier d'immigration. La majorité des migrants détenus par l'Agence des services frontaliers sont incarcérés en raison d'un risque de fuite. Québec vole au secours des maisons Gilles Carle. Radio-Canada a appris que le gouvernement Legault accorde un financement supplémentaire d'$1,6 million par année à ces habitations, qui offrent un service d'hébergement aux personnes en perte d'autonomie et du répit à leurs proches aidants. Et puis en Ontario, des syndicats veulent empêcher la fermeture de la moitié des laboratoires de santé publique provinciaux dans le cadre d'une centralisation. Ces laboratoires servent notamment à détecter l'eau contaminée. Les syndicats estiment que leur disparition mettrait la population en danger. Si les fermetures vont de l'avant, les échantillons prélevés devront être transportés sur des centaines de kilomètres pour être analysés. Les Abénakis du Québec estiment que certains groupes du Vermont commettent une fraude identitaire en s'associant à leur communauté. Deux jeunes membres de la nation abénakise ont dénoncé cette situation devant l'instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones, instance qui s'est ouverte lundi à New York. Marie-Laure Jocelyn est sur place.
C'est juste fou d'être à Times Square, d'avoir un panneau écrit que les Abénakis sont les seuls gardiens de leur culture.
Isaac Lachapelle-Guil et sa cousine Sigouanis Lachapelle ont les yeux rivés en l'air. Les Abénakis ont décidé de porter leurs revendications à l'ONU, mais aussi sur cette artère. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de fraude identitaire par quatre groupes du Vermont qui se sont fait reconnaître comme Abénakis par le Vermont. Et c'est Sigouanis Lachapelle, très émotive, qui a pris la parole devant l'instance permanente.
Oui, mais le message qu'on a voulu envoyer, c'était le fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament être Abénakis. Puis c'est un grand problème parce que ces gens-là reçoivent des droits ou du financement. Ils utilisent nos voix.
Pendant trois jours, des centaines d'Autochtones ont fait part de leur enjeu devant les autres Autochtones, les États et les observateurs onusiens, comme cette Guyanaise Clarisse Tolewali da Silva, venue parler des hommes indiens, ses pensionnats catholiques pour autochtones. Elle veut que la France agisse.
Il y a une commission vérité et réconciliation qui a été demandée. Il n'y a rien qui se passe, donc du coup je vais réitérer la demande et demander l'aide du forum permanent à ce niveau-là.
Si aucune décision n'est prise ici, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, Ghislain Picard, assure qu'il faut être présent.
On est capable, nous, de mesurer les progrès ou pas dans l'application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. On a un forum permanent depuis plus de 20 ans maintenant pour amener ces questions-là.
Les discussions se poursuivent jusqu'au 26 avril. Marie-Laure Jocelyn, Radio-Canada, New York.
Voilà, c'était le Radio-Journal. Pour plus de détails et d'autres nouvelles, je vous invite à consulter notre application mobile Info. Et je vous rappelle que nos Radio-Journaux sont disponibles en rattrapage en tout temps sur l'application audio de Radio-Canada. Ici Mathieu Bellumeur, au nom de toute l'équipe. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée, bon jeudi.